C'est toujours le magazine de Canal Sud et on va passer à notre invité. Et on va parler d'In Extremis, comme promis en tout début de magazine. In Extremis, une fenêtre ouverte sur des formes inattendues, des aventures artistiques inclassables ou encore des projets en cours d'élaboration. C'est un vrai festival de découverte qui s'étendra du 9 mars au 15 avril et qui va nous proposer des projets de tout horizon, réalisé par de jeunes artistes que l'on n'a pas ou peu vu jusqu'alors en France. Des esthétiques soignées et des opinions tranchées, ça on aime. Ce sont les maîtres mots de ceux qui vont, celles et ceux qui vont, cette année encore, ne pas manquer de nous surprendre. Stéphane Boitel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup donc d'être là pour nous présenter cette programmation de In Extremis 2016. Est-ce que pour commencer, tu peux nous rappeler ou nous repréciser l'objectif d'un temps fort comme In Extremis pour le théâtre Garonne? Quelle est votre volonté avec ce rendez-vous qui s'est pérennisé année après année et qui en plus est de plus en plus costaud quand même?
Oui, alors c'est vrai qu'il est de plus en plus costaud, on s'en rend compte année après année à chaque fois qu'on le met en place, mais c'est plutôt pour nous une bonne nouvelle, d'autant que... l'idée de faire ce moment dans la saison, c'était et c'est toujours et c'est de plus en plus, j'espère, un petit moment de liberté, autant pour les gens de Garonne, les gens du théâtre, qui pour l'équipe de programmation dont je fais partie, mais aussi pour tous les autres, c'est l'occasion pour nous de, je sais pas quoi, faire une sorte de ouvrir un peu la fenêtre par rapport au reste de la saison, et de marquer des contrepoints ou des excroissances à ce qu'on fait tout le reste de l'année. C'est aussi une façon pour nous, et alors là je parle vraiment de façon égoïste en tant que programmateur de cet endroit, c'est l'occasion de sortir du rythme de programmation qui, normalement dans un théâtre, on prévoit au moins un an à l'avance, parfois plus. Et bon, ben voilà, on fait comme ça. Là, sur les propositions de ce festival, on se laisse jusqu'à à peu près 2 mois avant le début du festival pour ajouter des trucs, voilà. Et même parfois, c'est le cas par exemple cette fois-ci, il y a encore des surprises qui ne sont pas annoncées, qui vont surgir en cours de festival. Et c'est vrai que ça fait un peu du bien de sortir de ce truc de pas se dire que si c'est pas calé un an à l'avance, ça va sauter. On peut croiser des esthétiques, des spectacles, des gens, genre à l'automne dernier, et puis tomber sous le charme et dire mais ça, il faut vraiment le faire avant que ça disparaisse, parce que souvent c'est des projets fragiles qui risquent de ne pas pouvoir être programmés l'année prochaine. Donc voilà, ça c'était un peu l'idée de départ pour nous. Et puis l'autre idée, c'est donc aussi un petit moment de liberté pour le public qui se trouve aussi bien que venant à Garonne dans un espace théâtral, voilà, qu'on connaît, je veux dire, ça ressemble à un théâtre, quoi. Sauf que là, on a des petites choses qui sortent un peu
du cadre
et des façons de convoquer le public habituellement. On croit beaucoup que quand on appelle le public, quand on interpelle le public d'une certaine façon, c'est-à-dire pas de façon traditionnelle ou habituelle, on va dire plutôt, les réponses sont différentes aussi, et c'est à travers une programmation qui aussi est autant de portes, enfin chaque proposition est une porte ouverte sur des disciplines différentes. Cette fois-ci, par exemple, il y a beaucoup de danse, mais en fait, même dans les propositions dansées, il y a aussi de la musique improvisée à l'intérieur, il y a un aspect plastique qui est toujours très très présent. Donc c'est aussi une façon pour nous de dire à plein de gens différents, tentez le coup, venez, voilà. Et ça marche plutôt bien, et ça aussi, nous en tant que juste théâtre, quoi, ça nous fait du bien d'avoir des gens un peu voilà, différents et qui viennent pour la surprise, en fait, parce que c'est chouette de se faire surprendre. Enfin, ça dépend de la surprise, mais souvent aussi quand même.
Et vous laissez la liberté de pouvoir être surpris tard. Et de pouvoir l'ajouter à la programmation.
Oui, voire même pendant le festival, puisque le festival est aussi à un moment où dans les spectacles qu'on accueille, il y a des choses un peu plus performatives, donc moins écrites à l'avance. Donc on n'est jamais totalement sûr de, même si on sait à quoi c'est censé ressembler, mais enfin, voilà, le truc avec la performance, c'est qu'on ne sait jamais exactement dans quelle forme ça va, dans tous les sens du terme, dans quelle forme ça va sortir. Et puis aussi parce qu'il y a toute une partie un peu plus souterraine dans le festival qui est un programme de résidence qu'on offre à des artistes pour préparer des nouveaux spectacles. Et à la fin d'une résidence qui peut généralement qui dure 15 jours, à la fin on ouvre au public pour qu'ils puissent tester un peu. Et ça c'est surprise totale, on ne sait jamais à l'avance à quoi ça va ressembler. Mais c'est aussi pour nous un test pour voir si on a envie d'accompagner encore après le projet et si on le présentera dans la saison régulière, la saison suivante par exemple.
Ou dans le prochain In Extremis, il y a des ponts, il y a des liens qui
C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec Trajan Larel par exemple, le chorégraphe américain qui est venu faire une résidence à Toulouse avant de créer son spectacle à Montpellier Danse, et qu'on accueille, le résultat final, le spectacle terminé, lors de cette édition d'In Extremis.
Kaori Ito a fait une résidence
idem.
Aussi.
Oui, c'est un autre exemple.
Il a présenté l'année dernière.
Oui, c'est ça.
Il y a donc des ponts qui se créent. Comment se prépare une telle programmation avec autant de partenaires? Est-ce que tu peux nous parler un peu des partenariats en direction d'un théâtre, par exemple, à Amsterdam, d'un récent festival à New York? Voilà, comment vous construisez
pour continuer la métaphore de l'idée d'ouvrir des portes, donc au public évidemment, aux artistes ça va sans dire, mais aussi effectivement à des gens avec lesquels nous travaillons à longueur de temps. Mais là c'est l'occasion aussi de monter des petits programmes, enfin petits, plus ou moins petits, mais bref, spécifiques en tout cas. Donc effectivement, cette fois-ci, on a imaginé deux temps dans ce festival, un consacré à la danse américaine, en tout cas en travaillant avec un festival new-yorkais qui s'appelle American Realness, qui existe depuis 7 ans, et qui est devenu vraiment un événement majeur en si peu de temps, qui est devenu un événement majeur à New York et aux États-Unis, qui montre beaucoup de nouveaux noms, on dirait, de la danse américaine, mais disons nord-américaine en général, y compris canadienne, etc. Et donc voilà, on avait envie, ça fait un petit moment qu'on avait envie de donner une carte blanche, parce que on aime bien mettre notre grain de sel partout, donc il s'agit pas de donner une carte blanche, mais vraiment faire ensemble une programmation avec American Realness. Donc c'est ce qu'on a fait là. Donc il y a 4 spectacles qui font partie de American Realness et qui ont été présentés auparavant évidemment dans le festival à New York. Le premier d'entre eux, c'est Supernatural. Supernatural, c'est deux danseuses et un musicien sur le plateau qui fait de la musique live, à partir de plein de choses, de son violon électrique ou des bouts de bois qui traînent un peu partout, parce qu'en fait le plateau, la scène, c'est une forêt.
D'accord.
Avec vraiment, il y a des bûches, il y a des voilà. Et tout le spectacle est dans donc c'est de la danse, mais c'est de la danse qui est faite vraiment à partir de postures, à partir de poses beaucoup, de ces deux femmes qu'on découvre au début du spectacle en mode bûcheron viril, les deux. Alors qu'elles sont très fluettes, très élancées, etc. Et puis qui, au fil du spectacle, se transforme en queer, glamour, quelque chose comme ça, mais toujours avec cette ambiguïté de, on est quand même parti des bûcherons virils, et on va vers cette sensualité et les clichés de la sensualité féminine, etc. Donc c'est un spectacle vraiment sur le transgenre et sur ce trouble-là. Ce qui en ce moment, je trouve, c'est pas mal de notamment en France de donner à voir des choses et de donner à traverser quelque chose de cet ordre-là, je trouve. Donc voilà, ça c'est le premier spectacle qui aura lieu les 11 et 12 mars, Supernatural. Et donc après, il y a une soirée vraiment American Realness avec deux spectacles dans la même soirée. compris dans. Et on termine ce fil rouge American Realness avec donc Trajal Harel, dont je parlais tout à l'heure, que j'évoquais tout à l'heure, qui présente ce spectacle qui est donc la version terminée de la précédente résidence qu'on lui avait offert. Et l'autre partenariat qu'on a voulu aussi mettre en place et puis s'amuser un peu à élaborer ensemble, c'est un partenariat avec le théâtre Frascati. C'est un théâtre à Amsterdam qui est beaucoup sur on va dire dans la programmation qui ressemble pas mal à ce qu'on fait à Garonne, sauf qu'ils travaillent beaucoup évidemment eux avec la jeune garde, on va dire, hollandaise. Et on a eu envie d'offrir à voir quelques exemples de ce qui peut se faire là-bas, ce qui peut être fait par de jeunes gens généralement, puisque c'est quand même des gens qui ont à peu près une trentaine d'années maximum. Il y a trois spectacles dans ce qu'on a appelé du coup Amsterdam Express. Amsterdam parce que donc c'est... Bon, c'est pas la peine d'expliquer. Et Express parce que c'est quand même jamais que trois spectacles, c'est ramassé sur une quinzaine de jours. Donc il s'agit pas de donner un panorama exhaustif de ce qui se fait en Hollande, ce serait un peu légèrement prétentieux, mais plutôt de donner au contraire même trois exemples absolument différents. Donc il y a un spectacle de théâtre, un spectacle de danse, pardon, un peu punchy, et deux propositions théâtrales, mais qui ne ressemblent pas non plus exactement à ce que voilà, ce qui se fait ailleurs. Il y a vraiment quelque chose d'assez bon, ça veut rien dire, mais d'assez hollandais là-dedans.
À découvrir. Stéphane, avant de rentrer précisément dans tous ces spectacles et d'évoquer le fil rouge pour le projet American Realness, le fil rouge des différentes propositions, ce regard qui est porté sur les minorités, plus ou moins visibles, je te propose de faire une petite pause musicale avec Timbre. Et on se retrouve juste après ça. À tout de suite.
Run from me, darling. Run, my good wife. Run from me, darling. You better run for your life. Run from me, baby. Run, my good wife. Run from me, baby. You better run for your life. Each time I see you, I contemplate what I love most of all, your swinging gaze. Run from me, darling. Run, my good wife. Run from me, darling. You better run for your life. Run, 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 run. Run, run,
Timber Timbre avec Run For Me, extrait de l'album Hot Dreams. Alors on a fini l'année à Garonne avec des clowns hollandais. Là c'est un printemps au parfum d'Amsterdam qui s'annonce. Et par parfum je n'entends pas, enfin je parle pas des tulipes ou d'une autre spécialité botanique qui pousse aussi dans la terre qu'on trouverait dans toute la ville, mais bien de la jeune création contemporaine. C'est tout aussi vivace, c'est tout aussi plein de propriétés étonnantes pour le psychisme. Stéphane Boitel, il va y avoir plusieurs soirées. Alors comment est-ce qu'elles vont se dérouler avec là aussi des premières en France, des choses qu'on n'a pas pu voir jusque-là, et la relève, on peut dire.
Oui, enfin une forme de relève. Après, je pense qu'il y a beaucoup de relèves possibles, comme Hollande, comme partout. Mais en tout cas, c'est un choix subjectif de trois. Nouvelle piste, on va dire, de gens à suivre, dont effectivement, pour la plupart, ils sont absolument pas connus en France. Donc l'idée, ce sera de traverser Amsterdam en suivant donc la Garonne et non pas les canaux, mais enfin, on fait ce qu'on peut, avec une soirée Amsterdam Express qui en fait a lieu deux jours, les 30 et 31 mars. Donc là, c'est le principe, c'est deux spectacles pour le prix d'un, et puis peut-être avec des choses autour qu'on connaît pas encore tout à fait, mais bon, voilà. Les deux spectacles, par contre, on les connaît. Mm-hmm. Et là, c'est vraiment des gens qui sont très très jeunes. C'est des filles. Mm-mm. Et d'ailleurs, c'est aussi quand on regarde la programmation du festival, c'est pas du tout volontaire. On n'a pas cherché à faire ça. Mais le festival dans son entier, en fait, est très 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 féminin. Il y a très très peu de mecs, en fait. Il y a deux spectacles faits par des mecs sur je sais pas combien, sur 12 ou 13. Mais bref, je referme la parenthèse pour le moment. Et non, parce que quand même elles ont en commun, et alors là c'est très clair sur Amsterdam, ces soirées Amsterdam Express, elles ont en commun d'avoir de fortes personnalités artistiques d'abord, mais tout court, pour les connaître un peu, ces filles. Et donc Amsterdam Express, les soirées, c'est Florentina Holsinger, qui fait un spectacle qui s'appelle Recovery, qui veut dire convalescence, donc parce que c'est un spectacle qu'elle a eu le temps d'imaginer, tout le loisir, je dirais presque, d'imaginer après s'être blessée sur un précédent spectacle. Et elle s'est fait plus que mal, enfin sa carrière de danseuse était vraiment menacée. Et en fait, elle a décidé, mais presque comme un processus thérapeutique, de construire son nouveau spectacle à partir de ça. Et de faire de la possibilité de jouer ce spectacle la condition même de sa guérison et sa possibilité de revenir sur le plateau et tout ça. Et ça a marché. Et puis alors ça marche avec une force incroyable, c'est-à-dire que le spectacle alterne donc plusieurs phases de cette histoire qui lui est personnelle, la chute, l'immobilisation, jusqu'au moment, un peu vers la fin du spectacle, je ne veux pas raconter tout le truc, mais où il y a quand même sur le plateau un vrai match de kickboxing, c'est-à-dire que là on est quand même à la limite entre la chorégraphie et vraiment le sport, puisque c'est une championne de kickboxing qui lui donne la réplique, et puis la réplique à coup de pied, à coup de poing, quoi, donc comme une vraie réplique. Le spectacle est très vif, je dirais.
Avec une interdisciplinarité aussi, il y a des mélanges comme ça qui se font, donc le kickboxing, numéro de danse, kitsch, du rap, un office funéraire, j'ai vu.
Oui, il y a un numéro de ballerine aussi,
qui
contraste très légèrement avec la partie de kickboxing.
Ouais.
C'est Florentina, c'est quelqu'un qui aime justement beaucoup mixer les langages et qui arrive à construire des spectacles et pas des successions de numéros avec des choses qui a priori n'ont rien à faire ensemble. Et voilà, moi c'est ça que j'aime bien, parce que du coup ça heurte un peu, enfin ça fait un peu vaciller, pour revenir aux substances typiques de Amsterdam dont que tu n'évoquais pas, que tu n'as pas évoqué du tout, mais il y a quelque chose, je trouve, sans aller trop loin, mais quand même il y a quelque chose de cet ordre là dans cette succession de trucs comme ça qui il s'agit un peu de perdre le public, il s'agit aussi de de le secouer et de lui faire faire un petit voyage intérieur avec, ouais, avec une proposition qui est très très physique, très forte de ce côté-là, et qui de ce point de vue-là est absolument chorégraphique, vraiment. Il s'agit vraiment de regarder des corps bouger. L'autre proposition de la soirée, c'est une fille qui s'appelle Davy Peters.
Oui.
Et qui, alors autant avec Florentina, on est plutôt dans Fight Club, je dirais, par exemple. Autant avec Davy Peters, on est, j'ai pas de titre précis qui me vient en tête, mais on est dans une approche très cinéma polar, puisque l'histoire de cette pièce, c'est le point de départ en tout cas, c'est un meurtre, quelqu'un qui est mort dans une forêt. Et il y a trois personnages. L'idée, c'est qu'au fil de la pièce, il y a une enquête, il y a des pistes possibles. Assez traditionnellement, comme dans n'importe quel polar, il s'agit de savoir qui est le meurtrier. Mais pour la faire courte, à la fin de la pièce, il s'agit surtout de savoir qui a été assassiné, parce qu'on est même plus sûr de ça. C'est-à-dire, plus on reconstruit, plus on essaie de faire quelque chose qui tienne la route, et moins ça tient la route. Alors, il s'agit pas uniquement de faire un polar pour Davy Peters. Même si elle a vraiment travaillé, elle a fait pas mal de rondes avec des médecins légistes à Amsterdam. Enfin, elle a fait un vrai boulot de recherche et complètement. C'est vraiment foutu dans le truc en mode les experts, tout ça. Et en fait, ce qui l'intéresse, elle, quand même, pas au-delà de ça, mais avec ça, c'est toutes ces fictions qu'on peut se raconter comme des hypothèses possibles, probables, et puis dont on s'aperçoit du jour au lendemain que non, elles tiennent pas la route. Alors quand c'est un polar, c'est chouette, c'est intriguant, c'est tout ça. Et puis quelquefois, c'est dans notre vraie vie où on pense des choses de certaines personnes ou de soi-même, et on s'aperçoit que non. Et comment un monde s'écroule quand on s'aperçoit que tout ce en quoi on croyait, c'était en fait une fiction qu'on avait construite soi-même ou que d'autres avaient construite pour nous. Ça parle de ça quand même. Ce qui est aussi assez intéressant en ce moment, je trouve. Enfin, en ce moment en général, c'est pas que ce moment-là. Mais je trouve qu'il y a beaucoup à dire sur comment on construit des fictions dans les médias, etc.
Voilà. Des paysages sonores aussi, en plus d'être d'évoquer le cinéma avec ce texte qu'elle appelle scénario.
C'est autant dans l'esthétique que dans l'accompagnement à la fois de la musique, mais plus généralement de la bande son vraiment. Ce cadre cinéma est très prégnant. C'est pas si courant en fait au théâtre de travailler autour de ça sans se prendre les pieds dans le tapis. Et je trouve que justement c'est ça qui esthétiquement est assez fort, c'est qu'on est vraiment dans un, évidemment on n'est pas devant un film parce que sinon ça n'a aucun intérêt, c'est comme du théâtre, mais c'est une jolie tentative d'accorder deux esthétiques, deux façons de représenter des choses, deux façons de mettre en scène des personnages. Avec aussi ces codes cinéma qu'on maîtrise plus ou moins tous. Enfin, on est quand même beaucoup plus habitué à ces codes-là que précisément à des codes théâtraux, quels qu'ils soient. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas. Et je trouve assez chouette d'en faire quelque chose pour le plateau. Et voilà.
Donc ça s'appelle How Did I Die?
Ça s'appelle Comment je suis morte. Bon, ou mort, parce qu'on ne peut pas trop savoir. Mais non, c'est morte quand même. C'est pas un spoiler, c'est sûr. C'est une fille qui est morte. Mais on ne sait pas laquelle.
Très bien. Troisième projet.
Et le troisième projet, ce sera donc la deuxième partie de Amsterdam Express, c'est la semaine suivante, début avril. Tanizaki, c'est un merveilleux écrivain japonais. Mais en l'occurrence, c'est le titre de ce spectacle qui est fait par un collectif de Amsterdam, de Utrecht et Amsterdam, on va dire, qui s'appelle The Warme Winkel, ce qui ne veut absolument rien dire, cherchez pas. Si, ça veut dire le magasin chaud, donc c'est ce que je dis, ça ne veut absolument rien dire. C'est un peu leur idée, ils aiment bien faire des choses qui ne veulent rien dire à un moment donné, sauf qu'ils en font quelque chose de chouette, voilà. Mais peut-être aussi avait-il trop consommé de... Enfin, j'en sais rien. En tout cas, ils sont passés par Garand, on les a accueillis une première fois sur un spectacle qu'on avait coproduit, tout de suite. C'était il y a 3 ans, je pense. 2-3 ans. C'était un spectacle assez... qui s'appelait Nous sommes vos amis, We are your friends. Où le titre était vraiment ironique. C'était quand même plutôt agit-prop, assez acide. assez... Et là, pour le coup, ça bousculait le public, parfois même physiquement, ce qui est très, très, très inhabituel au théâtre. Ouais. C'est une sorte de tabou absolu, on ne touche pas le public, surtout pas pour... voilà. Ben, eux, oui. Et c'était une chouette, un chouette moment qu'on avait passé avec eux et que le public avait passé avec eux, même pour le public qui, pour certains, était parti en hurlant au milieu du spectacle.
Il y a eu polémique, mais quand même. Voilà.
Mais c'était toute l'idée, hein, c'était de savoir à quel point le théâtre pouvait aussi être un vecteur de polémique, pas simplement pour faire de la provo, hein, mais comment on porte quelque chose sur, face à des gens et comment on s'en tient pas à dénoncer ou à faire passer un message, mais à un moment donné, ou ni à faire réfléchir ou à faire rire, ce qui est le grand classique du discours au théâtre. On fait réfléchir et en même temps on fait rire, à peu près. Bon voilà, bref. Eux, c'était vraiment l'idée de faire un peu plus que ça pendant que les gens sont là, c'est-à-dire de s'adresser à eux, presque même de leur offrir la possibilité de répondre pendant le... Voilà, ce que certains ont fait.
Oui.
Bref, ce spectacle s'est plutôt très très bien passé. Et en même temps, c'était une partie de ce que ce collectif fait. Il y a toute une autre partie qui est beaucoup plus... alors qui est beaucoup moins dans l'adresse publique comme ça et beaucoup plus dans un déploiement esthétique, un plateau très 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 visuellement très travaillé, etc. Et notamment cette série qu'ils ont fait sur des artistes qu'ils adorent, notamment donc là autour de Tanizaki. Ce spectacle qu'ils ont fait est une sorte de, à la fois c'est un hommage donc à une grande figure littéraire de notre époque, en tout cas du siècle dernier. Et c'est aussi une façon d'essayer de mettre à profit sur un plateau ce que Tanizaki a apporté ou a expérimenté ou a traversé dans ses écrits, notamment tout ce qui a trait à cette distinction dont Tanizaki dit qu'elle est fondamentale entre l'Occident et l'Orient, qui est que l'Occident montre tout et adore la lumière, et voilà, là où l'Orient est beaucoup plus dans la retraite, dans cacher les trésors et dans finalement flatter avec l'ombre plus que balancer de la lumière partout et tout montrer. Donc le spectacle reprend aussi ces prémices-là. Donc utilise la lumière de cette façon-là et traverse un peu cette philosophie, parce que je pense qu'à l'échelle d'une grande région et d'une histoire comme celle de l'Asie, c'est une philosophie. Donc voilà, c'est un hommage, mais pas que, évidemment. Ils en font quelque chose. Et dans les choses, et dans les surprises dont je parlais tout à l'heure, quelque chose qui n'est même pas encore annoncé, c'est un vrai scoop, c'est même pas encore annoncé sur notre site, ça le sera demain. On a voulu, à la suite de ce spectacle des Warme Winkel, proposer un concert. Donc le 8 avril, à la suite du spectacle, mais ouvert aussi évidemment aux spectateurs qui n'auront pas vu le spectacle, on propose donc un concert de Yuri Landman, qui donc est hollandais, évidemment, et qui est passé à Toulouse déjà. Moi je l'avais vu à l'IPN ici, je crois qu'il a été programmé par les Siestes électroniques, dernière édition, ça, je suis pas sûr. Et c'est une sorte de bricolo génial. Il arrive avec, c'est pas vraiment des instruments, c'est une sorte d'établi, et sur l'établi il a bricolé plein de choses qui font plein de sons différents. Donc il a un groupe à lui tout seul, et il arrive quand même à faire du Sonic Youth ou quelque chose d'approchant, juste avec son truc bricolé dans le garage. Et du coup aussi, comme il est tout le temps en train de, littéralement, je veux dire, de bricoler des choses même en direct, quoi, pour faire marcher tout ça, c'est aussi assez théâtral, enfin c'est assez visuel, c'est assez joli de le regarder évoluer dans son fatras, et c'est assez joli de voir que parfois même il donne au public, enfin en tout cas au premier rang par exemple, des petits trucs pour que le public puisse aussi participer au concert. Concrètement, c'est-à-dire que le public est amené à un moment donné à faire de la musique, et lui s'adapte en conséquence. Et j'aime bien cette idée de faire une sorte de concert collaboratif à certains moments, et que lui s'adapte au public. Donc voilà, ça c'est la surprise qu'on vient de sortir du chapeau in extremis là aujourd'hui.
Pour le 8 avril.
Pour le 8 avril.
Ce concert. On va faire une pause musicale avec, on écoute Pixies, c'est ça. Et juste après, on va se diriger vers New York, et donc cet incontournable rendez-vous, le festival American Realness, qui va s'exporter jusqu'à nous. Toujours dans le magazine de Canal Sud. On parle du festival In Extremis qui va commencer le 9 mars et se prolonger avec beaucoup de propositions. 13, je crois, 13, 14.
13 plus les surprises.
Plus les surprises jusqu'au 15 avril. On va se diriger vers New York et alors là, que ce soit la jeune création d'Amsterdam ou celle de New York, il y a des femmes qui viennent, en tout cas qui tentent de renouveler les formes, mais aussi déjà de casser cette omniprésence du créateur blanc et masculin. On va parler, peut-être pour commencer, du projet de Dana Mitchell. Et oui, des questions de cheveux.
Il est question de cheveux.
Notamment.
Et
bien plus, bien sûr.
Et bien plus. Donc, dans ce fil rouge autour de la danse américaine organisée avec le festival American Realness. D'abord, American Realness, c'est finalement une plateforme de spectacles qui vont être présentés à Garonne et pour certains d'entre eux également qui vont être présentés au Centre de la Danse, Centre National de la Danse, Paris, enfin à Pantin, et aussi aux Subsistances à Lyon. C'est-à-dire c'est vraiment une opération qu'on a construit pour revenir au partenariat que tu évoquais tout à l'heure.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on a voulu faire non pas simplement à Toulouse mais une plus grande échelle. Et du coup aussi quelque chose qu'on a construit avec des fondations américaines, avec je vais pas faire le détail de tout ça, mais pour moi c'est important de dire qu'effectivement ça fait partie de ces opérations qu'on partage avec plein de gens qui sont qui sont pas forcément toujours proches de Garonne mais qui deviennent proches de Garonne, notamment les fondations américaines, j'espère. Mais non, c'est important de dire que c'est partagé parce que par les temps qui courent, je crois qu'on a besoin de partager des choses si on veut arriver quelque part. Je ferme la parenthèse. Donc Dana Mitchell est une est une jeune chorégraphe. À chaque fois, je veux dire jeune, hein, donc je vais arrêter de le dire. Parce que à peu près, sur cette programmation, je crois que la plupart des gens sont nés dans les années 70, fin 70 ou 80. Donc c'est pareil, on n'a pas fait exprès, mais ça se fait comme ça. Mm-hmm. C'est donc une chorégraphe qui, dans ce spectacle qui s'appelle Yellow Tower, donc la serviette jaune, elle constate que les noirs ne sont pas comme les blancs. Alors dit comme ça, ça a l'air un peu voilà, mais dans la société nord-américaine dans laquelle elle a grandi, ça l'a intéressé de travailler sur le fait que, par exemple, quand elle était gamine, elle et puis plein de copines à elle essayaient de s'aligner sur le modèle blanc. Américain dominant,
oui.
Et que bah oui, quand on est noir avec les cheveux crépus, c'est difficile quand même de se faire passer pour une blonde pâle, mais quand même elle l'essayait, donc d'où le titre du spectacle. À une époque, elle se coiffait d'une serviette jaune, ça faisait genre un peu comme si elle était blonde.
Oui.
Bah, elle était petite, hein, elle était vraiment petite. Hein. Elle pouvait encore y croire parce qu'elle avait l'âge. Puis il y a un moment où elle a passé cet âge-là et donc elle s'est aperçue que non, ça marchait absolument pas. Mais du coup, dans ce spectacle, ce qui l'intéresse, c'est même pas tellement de dénoncer les stéréotypes blancs, c'est presque l'inverse, c'est aussi de s'intéresser aux stéréotypes noirs qui essaient de coller aux stéréotypes blancs. Et de renvoyer un peu dos à dos les deux clichés contre clichés. Ce qui me paraît effectivement plus intéressant que simplement dénoncer un peu ce qu'on sait tous, même si on n'en fait pas grand chose. Et elle en fait surtout un objet esthétique qui est très très beau, parce que c'est ce spectacle qui dure à peu près une heure, c'est une sorte de transformation comme ça d'un individu, donc elle, hein, puisque c'est un solo, qui est sur le plateau, elle qui se transforme et qui passe par différentes phases. Au début, donc, c'est cette phase d'extrême naïveté où on pense qu'on peut s'affubler d'une serviette jaune pour faire blonde, et puis en passant par voilà toutes les tentatives un peu maladroites ou de toute façon condamnées à l'échec pour ressembler au modèle dominant. Voilà, jusqu'au moment où un être apparaît dans sa un être indépendant, je dirais, libre de ce point de vue-là, libéré des clichés des autres et de ses propres clichés, des clichés de sa communauté, en l'occurrence. Un être apparaît. C'est très beau comme parcours à suivre, à accompagner. Et puis, ça raconte quelque chose, évidemment, enfin, si on veut sortir les grands mots, émancipation, et etc. Mais évidemment que ça raconte aussi quelque chose de cet ordre-là. C'est effectivement un des fils rouges de cette programmation américaine, American Realness. Autant avec le spectacle Supernatural, qui est donc un spectacle sur le transgenre et les minorités sexuelles, on va dire. Même si c'est très très réducteur de le raconter comme ça, mais enfin, quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le reste de la programmation American Realness est aussi du côté d'autres minorités, notamment les minorités dites raciales aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Ça nous paraissait important d'avoir un angle comme ça, pas simplement d'inviter un festival à montrer des trucs, mais de travailler vraiment avec le programmateur de ce festival. Il s'appelle Ben Pryor, et de partir ensemble sur quand même sur dire quelque chose de l'Amérique du Nord aujourd'hui, c'est-à-dire autre chose que ce qu'on en voit actuellement. J'ai une sorte de flash, je suis en train de penser à Donald Trump.
Oula.
C'est
dangereux comme genre de flash.
Bah parce que lui aussi il a une sorte de serviette jaune sur la tête, c'est pour ça que j'y pense. Et ce qu'on perçoit des États-Unis, ça passe beaucoup par ces espèces de d'excès, on va dire.
Ouais.
Évidemment, les choses sont les choses sont un tout petit peu plus compliquées et c'est pas mal d'avoir comme ça un angle artistique qui permette de donner une autre vue sur ce territoire aujourd'hui.
Projet qui parle aussi de métamorphose du corps. On n'a pas dit le mot queer, mais on est un peu là-dedans aussi.
Oui, on est là-dedans aussi. Après, j'essaie de pas coller le mot queer à tous les trucs américains qu'on présente. Enfin, c'est un peu le, c'est aussi
la
un sujet, en fait.
Oui, voilà. Ouais.
Alors, autant c'est très vrai sur le spectacle Supernatural, parce que vraiment, on est
totalement. Une étrangeté.
Là-dedans. Voilà, il y a une étrangeté qui est, et c'est ça l'intérêt du, enfin, c'est ça l'enjeu du spectacle, hein. C'est de traverser cette étrangeté-là. Mais par contre, c'est aussi vrai sur le spectacle de Trajal Harel, qui est donc le fantôme de Montpellier, qui clôt ce fil rouge American Realness.
Il s'empare du voguing qu'on a déjà pu voir. Il a vraiment fait
un tabac avec le premier spectacle qu'on a présenté de lui, qui était très 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 vaguement inspiré d'Antigone. il fallait chercher effectivement Antigone dans le Bronx, quoi, à peu près. Mais il a vraiment renversé tout le monde, parce que d'abord sa danse est tellement énergétique et tellement et aussi tellement un mix de trucs qui normalement vont pas ensemble, mais il en fait quelque chose qui a l'air d'aller de soi. Et en même temps, il a une équipe qui est à peu près toujours la même de danseurs sur le plateau qui sont d'abord ils sont tous beaux. Ça ne gâte rien, quand même. Et puis, en plus, ce qu'ils font, c'est, enfin, eux aussi sont dans une sorte d'énergie absolument irrésistible. Et donc voilà. Donc le premier spectacle avait à peu près renversé tout le monde. Celui-ci, le premier spectacle était donc Antigone et le voguing, on va dire. Celui-ci est plus une rencontre imaginaire. Entre le Buteau, entre Eiji Kata, qui est le fondateur du Buteau au Japon, et puis un grand chorégraphe français qui est Dominique Bagouet, qui lui aussi a imposé une esthétique dans la danse dans les années 80. Et voilà, donc Trajal imagine, il fait ce que j'appelle de la danse fiction. Il imagine à chaque fois des rencontres pas possibles, puisque les deux ne se sont jamais évidemment rencontrés, mais il imagine que oui. Et qu'est-ce que ça aurait donné si ces deux-là s'étaient rencontrés et avaient décidé de faire un truc ensemble? Donc le spectacle est le résultat, fantasmé évidemment, de la rencontre de ces deux-là.
On n'a pas parlé de Sorrow Swag.
Non, on n'a pas parlé
quelques
de
Sorrow mots, Swag. sur ce spectacle, alors, qui est aussi dans American Realness.
Ouais, c'est le quatrième spectacle de American Realness, qui est donc Sorrow Swag est présenté en même temps que Yellow Towel, dans la même soirée, donc c'est... Sorrow Swag, c'est un spectacle qui repose. Alors, c'est fait aussi par une nana, enfin, je veux dire, la chorégraphe. Mais par contre, c'est un solo pour un interprète, un jeune danseur qui est vraiment, vraiment très impressionnant physiquement. Je veux dire, il y a une sorte de charisme pareil, hein, c'est absolu. Et c'est aussi une transformation. On n'a pas mis ces deux spectacles-là ensemble pour ça, mais c'est le hasard. C'est aussi une transformation qui essaie de donner pendant 40-45 minutes, qui essaie de donner les étapes d'une transformation physique chez quelqu'un qui est soumis à une tristesse intense, à ce poids-là, et comment ça affecte le corps, et comment on en fait, évidemment, comment on en fait un objet esthétique, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et c'est ce territoire-là du blues, donc. Et c'est important parce que, effectivement, ça démarre dans une lumière bleutée, dans une sorte de brouillard intense, d'où émerge le corps de cet interprète, qui ne va plus cesser d'évoluer pendant 40-45 minutes, dans différents états physiques, et qui quelque part ont tous un rapport avec la sensation de la tristesse. À chacun après, chaque spectateur, de trouver évidemment c'est quoi le rapport chez lui, puisque il y a 10 000 façons de traverser ce sentiment-là et de l'exprimer, ou de ne pas l'exprimer d'ailleurs. C'est beaucoup là-dessus. Pour moi c'est un pur objet de contemplation. Il y a quasiment pas de texte, enfin, à part à un moment, mais très court. Et ça a quelque chose d'assez hypnotisant, enfin, d'hypnotique, de contempler ça pendant 40 minutes.
Ouais.
Et surtout donc avec ce jeune homme qui très très bien.
Et d'aller un peu à contre-courant de cette image du bonheur qu'on nous vend partout, de se laisser plonger
oui,
dans cette hypnose.
L'idée, c'est de, voilà, c'est ça, l'idée, c'est de sombrer, mais espérons avec un peu de bonheur quand même.
Oui.
Et effectivement, d'aller contre le bonheur obligatoire ou le bonheur requis par. Voilà, c'est ça.
On s'approche de la fin de cette émission. On peut pas se quitter sans avoir parlé quand même de Legacy, qui arrive très très bientôt. Ça sera du 9 au 12 mars avec cette femme, j'ai envie de dire ces femmes, puisque l'artiste qui propose ce spectacle implique d'autres femmes sur le plateau. Et c'est un spectacle avec une dimension politique, spectacle de danse. Une phrase que j'ai relevée, elle dit « Je sens que danser est une mission. Je danse toujours comme si c'était mon dernier jour. Je ne cherche pas à écrire des gestes, mais à mettre en avant des états. L'état d'angoisse qu'implique la lutte, par exemple comment le corps en est changé. » Quelques mots dans le temps qui nous reste avant de donner les
chansons. Je pense que dans ce que tu viens de dire, ce qui compte, c'est combat.
Ouais.
C'est encore une femme
peu guerrière.
Franchement guerrière.
Ouais.
Et ça parle de ça surtout. C'est-à-dire, ça parle vraiment de ces moments en fait, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais elle parle d'un moment en particulier dans l'histoire
des femmes africaines.
Ces moments où les femmes se sont mises à protester. Et souvent avec leur corps.
À marcher.
C'est simplement de la marche, on a envie de dire. Sauf que ça a souvent, à certains moments, en tout cas, ça a vraiment changé le cours de l'histoire de certains pays. J'ai pas envie de parler trop d'hommage à ces femmes. Je pense pas que ce soit le mot le plus juste. Je pense qu'il s'agit plutôt, même presque au sens strict, de se mettre dans le pas de ces femmes qui ont marché.
Oui.
Et en l'occurrence, c'est exactement ce qui se fait avec les femmes, avec la dizaine de femmes qui sont à chaque fois invitées sur le plateau à partager le spectacle avec Nadia. L'essentiel de leur présence consiste à être d'abord à être là telles qu'elles sont, entières,
oui,
je dirais, avec leur caractère, avec voilà, et à marcher ou à courir. Alors c'est pas un spectacle où on fait que courir pendant une heure, hein, mais il y a autre chose à voir. Mais c'est vraiment ce sentiment-là de qu'une lutte est possible et que la lutte la plus élémentaire, elle passe d'abord par le corps et en l'occurrence par le corps des femmes. Pareil, je trouve que c'est en ce moment c'est pas mal.
La force aussi de la nudité. Il y a comme un tabou autour de la nudité, même si on voit des corps féminins nus partout, mais des corps lisses, des corps plutôt aseptisés, sans poils, sans sueur, sans courbe, sans vie finalement. Là, ça passe aussi.
Parce que chacun est tel qu'il est, sans lissage Photoshop, parce que théâtre, c'est quand même très très difficile de lisser avec Photoshop. Donc là, l'idée, c'est justement c'est de montrer des gens normaux qui peuvent faire des choses.
Dans la lutte, dans l'endurance. On va terminer, on pourrait parler d'autres spectacles, des sorties de résidence qu'il va y avoir également, notamment Marlène Rostin, artiste toulousaine, qui va faire une sortie d'usine.
À l'usine d'ailleurs, ce ne sera pas à Garonne, ce sera à l'usine.
Sortie d'usine, il y a beaucoup d'autres spectacles, mais on n'aura pas le temps d'en parler. On peut peut-être donner, avant de terminer, des infos d'ordre purement pratique pour retrouver le programme. Il y a le site internet du Théâtre Garonne.
Il y a le site internet, il y a un Facebook qui va être créé pour, pour suivre un peu plus en direct au fil du temps les événements.
Et les surprises. Qui seront annoncées au fur et à mesure.
Voilà.
La petite brochure qu'on trouve
partout. Les tarifs, c'est entre 9 et 20 et quelques euros.
Oui.
À l'exception de le concert de Yuri Landman qui sera moins cher, mais je pense que ce sera 5 euros, mais on en a parlé ce matin, c'est pas
d'accord,
encore, voilà.
Décidé.
Mais ça devrait être ça. Et 5 euros aussi, c'est le prix de Disco qui est une installation performance dans les sous-sols.
Donc là aussi, vous permettez à des choses un peu inhabituelles.
C'est assez inhabituel d'inviter un authentique agent secret, un ancien agent secret, mais un vrai, pour parler avec le public, effectivement. Ouais. Ça, c'est très, très inhabituel. Et notamment pour ceux qui parlent avec lui.
Très bien. Merci beaucoup. Stéphane Boitel, on dit quand même qu'il y aura des places à gagner pour un spectacle donc super
supernatural.
Supernatural. Il faudra écouter le magazine et on vous offrira donc grâce à vous une dizaine de places sur les deux soirées et on annoncera au fur et à mesure bien sûr les spectacles. Voilà, je vous souhaite et je nous souhaite de belles découvertes rageuses politiques. Poétique, queer, on peut le dire quand même, et résolument contemporaine. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci de m'avoir invité. Au revoir.